Eh bien, je voudrais vous demander d'abord en quoi consiste votre entreprise ici exactement. Vous avez parlé d'un entrepôt.
Oui.
Vous êtes fabricant?
Non. Je suis grossiste, c'est-à-dire que je distribue du matériel fabriqué par des entreprises françaises à tous les installateurs, soit plombiers, chauffagistes.
Oui.
C'est-à-dire que, au fond, j'achète et je revends du matériel.
Oui.
J'achète et je revends du matériel, soit de chauffage central, soit de sanitaire, et de l'électroménager, c'est-à-dire des machines à laver, des cuisinières, des réfrigérateurs. Mais dans cet entrepôt, je n'ai affaire qu'à des clientèles de revendeurs eux-mêmes, pas de particuliers. Il y a un particulier qui, par exemple, qui voudrait monter une installation de salle de bain ou de chauffage central, je ne lui vends pas. Je ne vends qu'à celui qui le pose.
Mais vous avez en même temps votre propre magasin à Orléans.
Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, ça fait deux affaires.
Ah oui.
J'ai une affaire de détail qui est le début de mon implantation à Orléans, parce que je ne suis à Orléans que depuis 17 ans. Et en arrivant à Orléans, il y a 17 ans, j'avais acheté ce petit magasin et pendant 4 ou 5 ans, j'ai vendu du matériel ménager là-bas. Et après, l'évolution des affaires m'a amené à faire du matériel en gros, ce que je fais maintenant. Mais ma femme dirige, elle, le magasin de détail là-bas. Et nous avons donc deux affaires qui se complètent, si vous voulez, mais qui n'ont pratiquement rien à voir entre elles, au point de vue et organisation et personnel.
Mm-hmm. Et vous vous occupez surtout de celle-ci?
Ah, moi, je ne m'occupe que de celle-ci.
Oui.
Je supervise l'autre financièrement.
Oui.
Mais c'est tout.
Et vous dites que vous êtes ici à Orléans depuis 17 ans.
17 ans, oui.
Je croyais que 4 ans, c'était une
c'est-à-dire que,
famille orléanaise.
Oui, nous sommes une très vieille famille orléanaise, mais régionale surtout.
Oui.
Le nom Cassegrain a pour origine les meuniers.
Mm-hmm.
Voyez-vous, Cassegrain,
oui,
meunier.
Oui.
Et nous, tous les Cassegrains d'ailleurs d'Orléans sont natifs ou sortent à peu près d'une même région de la Beauce, c'est-à-dire à 25 km d'Orléans, qui est autour de Patay, un petit pays à 25 km d'Orléans.
Mm-hmm.
Et alors tout ça, depuis des années, mm-hmm. ça s'est répandu un petit peu, et puis ma foi... D'ailleurs, on ne trouve pratiquement des Cassegrains que dans cette région de France.
Ah oui.
Et c'est assez bizarre, j'ai essayé de rechercher même à droite et à gauche au cours de voyage s'il y avait d'autres Cassegrains... En France, j'en connais qu'une famille qui est à Nantes, et puis c'est tout, j'en vois aucune autre ailleurs.
Le grand nom Cassegrain qui met en boîte les...
Oui, les conserves de Nantes. Oui.
Nantes,
oui. C'est la seule famille que j'ai trouvée en dehors de la région orléanaise. Et ça, c'est facile à le voir, c'est en feuilletant uniquement les annuaires téléphoniques.
Mm-hmm.
De chaque département, on voit que dans les autres régions, les Cassegrains... Il n'y en a pas.
Mm-hmm.
Et c'est bizarre. C'est un nom typiquement Beauceron, enfin Beauceron orléanais, si vous voulez.
Mm-hmm. J'ai remarqué aussi en arrivant que cette zone industrielle a été financée ou enfin mise en place par la Chambre de commerce.
La Chambre de commerce, c'est ça.
Alors oui. C'est privé, cette zone industrielle, ou c'est...
C'est-à-dire que non, ce n'est pas les emplacements, oui les emplacements, par exemple, quand la Chambre de commerce décide d'implanter une zone industrielle, elle achète des terrains aux usagers, mais elle remet, si vous voulez, aux communes sur lesquelles ces terrains sont, elle remet la voirie, les routes. Par contre, tous les emplacements que nous avons, nous, sont achetés, à la zone industrielle, du moins à la chambre de commerce, et puis alors après on fait dessus ce que l'on veut.
Oui.
Mais uniquement commerce et industrie, hein, il n'y a pas droit d'avoir des maisons d'habitation, sauf des maisons de gardiens pour les usines ou les entrepôts.
Est-ce que la chambre de commerce donc essaie d'attirer ici des industries ou des entreprises venant de Paris ou venant d'ailleurs?
Alors non, cette zone est bien particulière. C'est-à-dire que devant l'éclatement d'Orléans, si vous voulez, devant la poussée et démographique d'Orléans, devant la poussée de la circulation automobile dans Orléans, Toutes nos affaires qui étaient plus ou moins dans le centre-ville, ou plus ou moins pratiques, approchées par les moyens de locomotion actuels, ont été, pendant un temps, ont dû penser à s'établir ailleurs. Alors la Chambre de commerce a créé ce qu'on appelle cette zone industrielle, mais qui est en définitive davantage une zone de dégagement. Mm-hmm. Dégagement du centre d'Orléans, pour laisser la place à des immeubles, par exemple, faire des immeubles de logement, et en retrouver ici tout le commerce de gros, qui a besoin de surface, qui a besoin de parking, qui a besoin de routes sur lesquelles passent des camions, alors que dans le centre-ville, ça n'était plus possible. Alors c'est ça, si vous voulez, l'idée principale, zone de dégagement du commerce de gros orléanais. Ici, par exemple, il n'y a aucun particulier qui vienne dans cette zone, pratiquement pas. Voilà, si vous voulez, la raison principale.
Est-ce que vous savez si Orléans est une ville qui bénéficie de la politique gouvernementale d'attirer à certaines zones prioritaires des
développements rapides ? Pas du tout. Orléans, par contre, au contraire, est ce qu'on appelle en zone blanche, oui. C'est-à-dire zone de plein emploi. Il n'y a pas de chômeurs à Orléans, ou que les chômeurs professionnels.
Oui.
Alors, nous sommes, si vous voulez, un petit peu... du moins, le gouvernement ne nous donne pas de facilité pour implanter des nouvelles usines, pour la bonne raison, c'est que nous n'en avons pas besoin. Nous employons tout le personnel, toute la main-d'œuvre d'Orléans et de sa région.
Donc, cette explosion d'Orléans vient d'elle seule et non pas d'attraction de l'extérieur.
Au départ, oui. Au départ, oui. Sauf maintenant, avec la construction de la source, du domaine de la source. Alors, qui va nous poser d'autres problèmes, alors là c'est un autre plan, c'est le plan municipal si vous voulez, qui va nous poser d'autres problèmes parce que nous avons à la source beaucoup de tertiaires, ce qu'on appelle, ce sont de la fonction publique, ou des instituts de recherche et l'université. Alors ça va nous poser des problèmes de mise en place d'une main-d'œuvre fraîche qui arrive, et certainement que sur la source nous allons être obligés de demander au gouvernement de revoir sa position pour cette région bien déterminée.
Mais j'ai remarqué que vous avez, en fait, qu'il y a ici, je ne sais pas si on les attire, mais qu'il y a ici quand même des ouvriers portugais, espagnols.
Ah oui, alors ça si vous voulez, c'est la grande mutation de, à mon avis, des peuples surdéveloppés. Je ne sais pas si vous me suivez bien, que ce soit nous, que nous soyons français ou anglais, on est surdéveloppés. Donc, les employés, les ouvriers ne veulent plus faire les travaux mineurs, comme le terrassement, comme la fonderie, choses comme ça. Ça, il n'y a rien à faire. Un manœuvre, on ne le trouve pas en France. On est obligé donc d'importer de la main-d'œuvre étrangère pour faire les travaux mineurs, les travaux durs. Autant on trouvera de bacheliers dont on ne sait pas quoi faire, autant on n'aura pas de main-d'œuvre. Et de gens de fort à pas, quoi, de gens qui manutentionnent. Alors c'est la seule raison pour laquelle on importe de la main-d'œuvre étrangère. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais...
Oh, c'est pareil, oui.
C'est pareil.
Ce n'est pas les mêmes nationalités qui viennent, mais il y a quand même des manœuvres étrangères. Surtout, des pays qui sont liés à nous, évidemment.
Oui, d'accord, c'est ça.
Pakistan, les Indes, comment on les appelle, les Indes d'Amérique, non. Jamaïque.
Jamaïque, oui. On parle du problème jamaïcain, d'ailleurs. Il me semble avoir lu sur des coupures de presse que c'est un problème en Angleterre. Comme nous, on a le problème des Espagnols, des Algériens, c'est pareil.
Oui.
C'est le même genre.
Parce que nous pouvons peut-être passer notre rôle comme conseil municipal.
Si vous voulez.
Maintenant, comment Depuis combien de temps est-ce que vous êtes intéressé aux affaires municipales ?
Eh bien, je me suis intéressé aux affaires municipales depuis 1958, date de l'avenue au pouvoir du général de Gaulle. Mm-hmm. Donc, si vous voulez, je suis un fervent gaulliste. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à la politique.
Excusez-moi,
je vous en prie.
Une chose.
Une petite défectuosité dans le moteur.
Oui, ça doit être. Mais ça enregistre quand même parce que les
billets
balancent. Oui. Alors vous dites que vous êtes intéressé depuis 1958 à l'arrivée du général.
C'est ça.
Oui.
Et à ce moment-là, j'ai commencé avant d'être. Avant de m'occuper des affaires municipales, j'ai commencé à faire de la politique. Mm-hmm. C'est un petit peu comme ça en France, ça va être partout pareil d'ailleurs, qu'on vient à s'intéresser plus ou moins aux affaires municipales ou législatives ou autres. Donc, en 1958, j'ai mené les campagnes pour les députés de la majorité, donc du général de Gaulle. Et puis, j'ai eu des campagnes personnelles au point de vue élection au conseil général. Je ne suis pas passé, j'étais trop jeune. Et puis, en 62, oui, je crois que c'est 62, En 1965, j'ai été élu sur la liste du conseil municipal. Alors, dans le groupe, parce que notre conseil municipal est composé de quatre familles différentes, où il y a des indépendants, des UDR, gaullistes, l'ex-MRP, et puis une tendance. Ce qu'on appelle des radicaux, les anciens radicaux gouvernementaux, quoi, la tendance de M. le maire, par exemple, de M. le secrétaire. Donc j'ai été élu sur cette liste globale, cette liste unique. Et puis, je m'intéressais beaucoup aux finances et je faisais partie de la commission des finances. Et puis alors, à la mort d'un de nos collègues, j'ai été élu adjoint au maire. À la mort d'un de mes collègues qui était adjoint, j'ai donc été élu 4 ans après adjoint au maire. Voilà comment.
C'est le conseil municipal lui-même qui élit les adjoints.
Exactement, oui.
En séance publique, oui.
Toutes les élections à l'intérieur, si vous voulez, des diverses commissions de la ville sont faites en séance publique. Mm-hmm. Les séances privées, c'est uniquement pour débattre des problèmes qui seraient peut-être trop longs. En séance publique, alors on s'en explique d'abord une bonne fois entre nous, et après on vient en séance publique, et puis ça dure beaucoup moins longtemps. Mm-hmm. Parce que sans ça, on n'en sortirait pas. On peut rentrer au conseil à 9h, puis en sortir à 3h du matin. Mm-hmm. Alors.
Et comme ça, vous serez adjoint au maire jusqu'aux prochaines élections.
Jusqu'en 71.
71.
C'est ça, oui. Oui.
Est-ce qu'on élit généralement, si la liste de M. Secrétin est élu comme la dernière fois, est-ce que c'est quasi automatique que vous seriez aussi adjoint au maire? Non, c'est pas automatique.
C'est justement ça, si vous voulez, à l'heure actuelle, les grands sujets de discussion. Mmh. On prépare les élections de 71. Alors, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va reprendre les mêmes? Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Quelle est la tendance qui va être la plus forte au conseil municipal? Ça, mm-hmm. nous en sommes au stade exploratoire. Mm-hmm. Si vous voulez.
Et en tant qu'adjoint, vous avez donc quelques rôles, quelques devoirs?
Oui, oui, nous avons des devoirs supplémentaires, évidemment. Nous sommes tenus à une permanence à la mairie, un jour par semaine, où tout le courrier est à signer, les mariages à faire. Et puis nous avons chacun, si vous voulez, des rôles bien déterminés. Alors, si vous voulez, moi, puisque je suis davantage dans le commerce, comment expliquer ça? Je m'occupe de tout ce qui concerne le commerce orléanais par rapport à la mairie. Alors, Donc les services de la mairie qui s'occupent les services, les fonctionnaires de la mairie qui s'occupent du commerce sont donc placés directement sous ma coupe. Je ne dis pas sous mes ordres, parce que c'est assez, c'est pas ça. C'est sous ma coupe, si vous voulez. Alors, c'est pas un travail écrasant. Enfin, c'est intéressant. Très intéressant.
Et le travail du conseil municipal vous intéresse, je vois aussi.
Oui.
Quel aspect du travail du conseil lui-même vous intéresse aussi?
Je vous dis, je suis un financier. Oui. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si, quand on décide quelque chose, quand on pense, quand on essaye de prendre une option sur telle chose, si elle est rentable dans l'immédiat, à moyen terme ou à long terme. Et c'est assez passionnant parce qu'en définitive, on peut avoir au sein du conseil municipal des idées démagogiques qui nous diront, par exemple, il faut faire, je sais pas, pour un exemple, 500 logements. Alors, il faut les financer, ces logements-là. Est-ce que 500 logements, à l'heure actuelle, c'est un problème qui nous est posé, est-ce que 500 logements sont valables en ce moment à les financer? Est-ce qu'on trouvera du monde à mettre dedans, donc à récupérer ce financement au moyen des loyers? Est-ce qu'il ne faut pas mieux attendre un an, faire des choses plus terre-à-terre, comme des trottoirs, de la voirie, de l'entretien de la ville, et dans un an, vraiment lancer une opération importante ou intéressante? Alors, si vous voulez, quand on s'occupe de questions financières, c'est ça le problème. Et alors évidemment, au conseil municipal, étant donné la diversité des gens, des opinions, eh bien, certains préfèrent voir une option démagogique ou qui n'a, à mon avis, aucun rapport avec la réalité du moment. Alors, c'est pour ça que je me passionne à cette affaire-là, voyez-vous.
Et pour l'indépendance de la municipalité vis-à-vis de l'administration parisienne, quoi, je vous pose cette question parce que moi, professionnellement, j'essaie d'enseigner le français dans un contexte de la vie actuelle, des institutions actuelles. Et dans les manuels, on lit toujours qu'il y a, non pas une lutte, mais une tension en France entre l'administration centrale à Paris et les municipalités, c'est-à-dire les communes qui sont les cellules de base de la démocratie. Donc, on s'intéresse toujours à savoir si réellement, dans la vie réelle, cette tension se perçoit ou simplement
l'académie. Oui. Non, il y a effectivement une tension,
oui.
Mais elle vient d'un côté financier. Mm-hmm. La ressource des communes, c'est l'État. Alors, qu'est-ce que font les communes? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? C'est demander de l'argent à l'État pour faire leur réalisation. Alors, évidemment, toutes les communes de France, sans exception, demandent de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mais l'État ne peut donner que ce qu'il a. Alors, évidemment, il y a toujours un point de friction parce que certaines communes se trouvent plus ou moins lésées en comparaison d'autres. En disant, j'ai prévu, par exemple, ce programme de 500 logements, mais j'ai pas d'argent pour le faire. Alors, il y a des heurts. Mais c'est des heurts qui sont... C'est normal, on ne peut pas tout faire en une seule fois, vous comprenez. Il y aura toujours des erreurs. Mm-hmm. Il n'est pas possible que les communes s'autofinancent en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible que les communes perçoivent un impôt spécial pour faire leur financement. Mm-hmm. Ça, ou alors c'est plus de la démocratie. Mm-hmm. C'est de l'autoritarisme automatiquement.
Vous avez parlé de la source,
oui.
De la réalisation. La plus grande d'Orléans.
Ah, c'est la plus importante.
Oui.
Ah oui, c'est la plus importante d'Orléans. Oui, arriver à mettre sur pied une ville de 20 000 habitants en l'espace de 10 ans.
Vous avez participé aux débats, aux décisions qui ont...
Ah non, je n'étais pas conseiller municipal à ce moment-là.
Ah,
mais j'y ai participé en tant que politique, si vous voulez.
Mm-hmm.
Puisque, étant donné que je suis, si vous voulez, le secrétaire général du mouvement gaulliste dans le département, il m'a été amené d'en discuter, si vous voulez, sur un plan politique. Mm-hmm. Mais pas en réalisation municipale à cette époque-là.
Mm-hmm. vous avez trouvé que c'était...
C'était la solution inespérée de faire quelque chose sur la région orléanaise. Ça a permis, si vous voulez, au gouvernement de se rendre compte qu'à Orléans, il y avait des gens qui voulaient s'occuper de quelque chose, faire quelque chose, sortir de la routine ou des sentiers battus. Alors quand on a réussi, quand la municipalité et les députés ont réussi à prouver au gouvernement qu'il y avait quelque chose à Orléans autre que cette espèce de vieux jeu orléanais, puisqu'on dit toujours les vieux orléanais, eh bien ma foi, ça fait plaisir. Le gouvernement nous a vraiment très très bien aidés dans cette opération. Ah oui, ça peut. Grâce d'ailleurs à M. Socratin et puis surtout à M. Duvillard, qui est maintenant ministre des Anciens Combattants, mais qui est député du Loiret depuis 1958.
Nous sommes allés à la source, naturellement, nous étions logés, même il y a 18 mois, nous étions logés à la source, à l'université, aux résidences universitaires qui sont très belles.
Ah oui, je dirais même que c'est presque trop beau.
Ah oui. Trop beau.
Trop beau, si vous voulez, trop beau pour... Ah, je ne vais pas être trop méchant, mais enfin... Je pense que les étudiants, en définitive, ne se rendent pas compte de ce qui a été fait pour eux. Je pense par exemple qu'il est absolument inutile de faire ce qui a été fait au point de vue marbre, décoration, etc. Alors qu'on les a retrouvés cassés, qu'on retrouve ça cassé tous les jours. On a dépensé là-dedans un argent fou. C'est le financier qui parle. Hein. Pour rien, pratiquement.
On est très difficile sur un constructeur de voir ses constructions dépassées ou cassées.
C'est vrai.
Les jeunes, on a l'impression que partout, ils s'intéressent de moins en moins au concret et de plus en plus aux idées. Donc, l'effort de bâtir quelque chose ne peut peut-être pas dire autant que pour un vieux ou pour un villageois qui a mal à faire.
Mais les jeunes s'ennuient. Jeunes s'ennuient en ce moment, oui.
Pourquoi?
Parce qu'en dehors de leurs études, ils n'ont rien à faire. Ils ne s'intéressent à rien. Enfin, moi, je sais pas, je connais ce problème, puisque malgré tout, sur le plan politique, si vous voulez, je suis en rapport avec les jeunes de l'UJP, les jeunes gaullistes. Mais ces jeunes-là, à part quelques têtes, ils ne savent pas quoi faire. On le dit d'ailleurs bien souvent entre nous, ce qui vous manque, c'est une bonne guerre quelque part. C'est malheureux, mais c'est vrai. Évidemment, on ferait mieux de les envoyer pendant quelques temps, passer un an dans les pays sous-développés à travailler, au lieu de leur faire un service militaire ou choses comme ça. Dans le temps, il y avait l'ère colonialisme, tous les jeunes des pays plus développés vont avoir de quoi s'occuper à l'extérieur, sans pour ça faire la guerre, mais enfin bâtir quelque chose. Et maintenant, ils n'ont plus rien à bâtir. On leur bâtit d'avance. Alors, ils le cassent maintenant. Je crois que la jeunesse s'ennuie. Et ils ne sont pas assez au fait du travail. La notion du travail, pour eux, ça ne veut plus rien dire. Est-ce que ce sont les idées du communisme qui leur met ça dans la tête? Est-ce que ce sont encore des idées philosophiques plus farfelu, le mot est peut-être dur à digérer de la part de certains jeunes, qui leur dit qu'après tout le travail, ça n'a aucune importance. Je sais pas. C'est difficile à les analyser.
Oui, nous aussi, nous trouvons d'ailleurs la même difficulté.
Ah oui. Enfin, je vois, moi j'ai deux enfants, j'en ai une qui aime le travail, qui travaille très bien, l'autre qui dit après tout, on verra bien. Moi, à son âge, mon père m'aurait fait une bonne paire de claques, puis il m'aurait dit, tu vas faire ça, et je l'aurais fait.
Est-ce que c'est, je parle de jeunes, Je pense aussi aux idéologies, est-ce que, et les idéologies politiques. Est-ce que les idéologies politiques jouent un rôle au conseil municipal, à l'échelon municipal?
Oui.
Oui.
Oui, dans le sens de la démagogie. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de surenchère entre les partis de la majorité et le parti de l'opposition. Quand le parti de la majorité pense qu'un problème, il est mineur, on ne s'éternise pas dessus, on le vote ou on ne le vote pas, on le refuse. Mais à ce moment-là, automatiquement, l'opposition fait de la surenchère. Alors c'est très désagréable, évidemment, parce que ça fait des petites querelles au conseil municipal, parce qu'après, entre hommes, c'est terminé. Hein. Enfin, pour l'opinion publique, ça fait des querelles qui, en définitive, ne ressemblent à rien du tout. C'est des querelles pour les prochaines élections. Pour pouvoir dire, vous voyez, si nous étions, nous, au pouvoir, ça se passerait, vous allez voir ce que vous allez voir.
Oui. Donc, aux élections municipales, les idéologies jouent aussi.
Ah, énormément, oui. Énormément. Oui. Énormément. D'ailleurs, un garçon qui ne fait pas de politique ne peut, à mon avis, ne pas être un conseiller municipal. Mm-hmm. C'est pas possible. Quand on me dit que moi je fais pas, hein, quand un garçon me dit moi je fais pas de politique, automatiquement je pense, eh bien tu es incapable de faire un conseiller municipal ou quoi que ce soit. Parce que si tu n'as pas une pensée politique sur les infrastructures, sur la vie, sur l'avenir, on ne peut pas décemment prendre un homme comme ça dans une équipe municipale, il ne servira à rien. C'est mon avis, je peux me tromper, enfin.
Parce que, vous voyez, quelques-unes des idées ou des expériences que nous apprenons ici sont très différentes des nôtres.
Oui.
Je ne sais pas si actuellement les expériences seraient très différentes, mais historiquement, c'est différent entre nous, entre les deux pays. Mmh. En Angleterre, la grande tradition, c'est qu'au niveau municipal, la politique nationale ne joue pas. Ça commence à jouer, oui, depuis la guerre peut-être, et surtout dans les grandes villes. Mais la tradition veut que la politique nationale ne joue pas, que les conseillers municipaux, si vous voulez dire, ou conseillers locaux, devraient être indépendants. C'est le mot.
Oui, mais indépendants de tout.
Oui.
À ce moment-là. Alors, indépendant aussi bien des... Dans les petites communes, c'est pour ça qu'on voit dans les petites communes des conseils municipaux vraiment amorphes, qui ne savent pas faire une réalisation intéressante. Je vois dans des petits chefs-lieux de canton, les conseillers municipaux sont ou de braves cultivateurs, ou de braves commerçants, ou des braves ouvriers, mais... Ils sont conseillers municipaux pour quoi? Pour rien. Parce que s'ils décident, par exemple, j'ai un exemple en tête dans une petite commune, ils ont voulu faire une piscine. C'est louable, c'est très bien, mais le financement, ils n'en ont pas. Avant de faire une piscine, il faut savoir qui viendra. Est-ce qu'avec une piscine, on va garder nos jeunes dans la région? Ou est-ce que, parce que cette commune est à 20 km d'Orléans et au bord d'une rivière, quel est l'intérêt de cette piscine? Il n'y en a pas dans l'immédiat. Si on avait de l'argent de trop, on n'a plus savoir quoi en faire. D'accord? Alors ces conseillers municipaux ont décidé un beau jour de voter, de faire une piscine, et puis ça s'en est resté là, et ça en reste là depuis 10 ans, et ils sont malades, ils disent le gouvernement ne veut pas nous faire notre piscine. Donc, s'ils étaient un peu politiques, s'ils étaient formés politiquement, ils pourraient se poser le problème et l'exposer à leurs habitants de la commune, en disant, mais non, ça n'est pas valable dans notre commune. Mais ils se butent sur un truc bien déterminé, l'homme indépendant qui ne connaît rien au grand problème. Et aux problèmes financiers en particulier. Je reviens toujours là-dessus parce que c'est ça.
Alors, une je vous retiens très longtemps.
Non, 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 je me dis que j'avais jusqu'à midi, alors vous voyez, j'ai tout mon temps.
Ah bon, alors, tant mieux. Oui, peut-être le dernier groupe de questions sur l'UDR, on appelle maintenant.
Oui, c'est ça, oui.
L'UDR. Quelles seraient les activités du groupement? Est-ce qu'on l'appelle toujours le groupement gaulliste?
Non, ça, on n'appelle pas toujours le groupement gaulliste. Maintenant, l'UDR, si vous voulez, c'est la très grande majorité de gaullistes. Et nous essayons de rassembler dans le sein de l'UDR tout ce qui forme la majorité de l'actuel président Pompidou. C'est-à-dire les éléments de l'ancien MRP, des anciens radicaux, qui sont maintenant intégrés dans la majorité gouvernementale. Et nous essayons de faire, alors là nous essayons de copier un petit peu sur l'Angleterre, en disant il n'y a que deux grands partis valables, alors un parti de gouvernement et un parti d'opposition. Alors justement, nous essayons par tous les moyens à ramener tous ces petits groupuscules, par exemple le petit groupe de M. Duhamel, le petit groupe de M. Giscard d'Estaing, le petit groupe de M. Schuman, à les ramener au sein de l'UDR de façon à former ce grand parti de gouvernement que nous voudrions voir apparaître. Mais ça n'est pas facile. Et puis nous voudrions bien que de l'autre côté, ce soit pareil. Qu'il fasse vraiment un grand parti d'opposition. Ce serait quand même plus.
Oui. Oui, vous disiez.
Oui, je veux dire qu'on essayait, évidemment, nous avons en France un autre problème politique, c'est que nous avons le Parti communiste qui est très structuré et très bien organisé, que vous n'avez pas chez vous, je pense pas du moins.
Non, c'est
pas. Hein? Et, oui, si vous avez, ce sont des petites tendances très éparpillées, donc nous avons ce gros morceau-là avalé qui représente quand même 25% des électeurs en France, faut pas se le cacher, faut être réaliste. Alors, notre problème, si vous voulez, en tant que majoritaire, c'est ça, de regrouper toute la fonction majoritaire. Mais il y a des problèmes d'hommes. Il y a des problèmes d'hommes.
Et à l'échelon régional ou local, qu'est-ce que vous faites en tant que secrétaire général du groupe local?
Oui, c'est ça, du département.
Du département.
Du département, oui.
Et quelles sont les activités que...
Eh bien, les activités d'un secrétaire départemental, secrétaire fédéral, c'est de coordonner, si vous voulez, un petit peu toute cette masse d'amitié au départ, qui a soutenu le général de Gaulle. Parce qu'en principe, l'UDR, dans le département, ça arrive à venir, ce que je vous disais tout à l'heure. En principe, l'UDR, au départ, n'était formé que de gaullistes, 100%. Et maintenant, donc mon rôle, si vous voulez, c'est d'essayer de coordonner tout ce monde-là, et puis de leur inculquer un petit peu, justement, cette formation politique qui manque à l'ensemble des Français. Mm-hmm. Alors, ça fait des réunions à droite, à gauche, dans les cantons, dans les arrondissements, pour essayer, justement, de créer ce fameux mouvement.
Vous avez un bureau autour de vous?
Ah oui, j'ai un secrétariat en ville qui fait évidemment toute la partie administrative, si vous voulez. Et puis, il y a un comité départemental qui prend les décisions, mais qui sont des décisions, alors à ce moment-là, strictement électorales. Parce que le grand rôle, évidemment, en plus du secrétaire fédéral, c'est de décider des candidats, en accord, évidemment, avec chaque pays, chaque ville, chaque canton, c'est le très gros morceau, si vous voulez. Alors, en ce moment, par exemple, on prépare les élections municipales 71. Alors, toutes les semaines, j'ai des amis qui viennent de toutes les communes, de tous les cantons, et on discute de leurs problèmes dans chaque commune, dans chaque canton, pour savoir si on doit présenter une liste complète d'amis de chez nous, ou si on doit faire un mélange de tout ça pour essayer d'organiser. Alors c'est tout un, tout en doigté et tout en... On ne peut pas être cassant.
Non. Et vous auriez sans doute organisé la visite de M. Pompidou ici, je crois, en Orléans.
Oui.
Oui. Un discours.
Il est venu avant les élections présidentielles.
Oui, c'est ça, oui. Et ce serez-vous qui...
Ah, c'est moi qui organise toutes ces choses-là. Oui. Tous les déplacements de ministres, tous les... Enfin, tous les déplacements sur les hommes d'État de la majorité, automatiquement, je suis chargé d'organiser toutes ces choses-là. Toutes les manifestations de la majorité, c'est aussi mon rôle.
Oui. Comme manifestation, est-ce qu'il va y en avoir cette année une manifestation quelconque?
Je crois que si l'opposition continuait à faire ce qu'on appelle ces espèces de grèves larvées ou de contestations larvées, je crois qu'on referait une opération de masse comme celle que nous avions fait après mai 68.
Ah oui.
Je crois que l'ensemble des Français en a assez. Parce que toutes ces petites contestations que l'on voit partout, ça ne vient en définitive que de quelques meneurs. Moi, je le vois très bien au point de vue commercial, puisque je suis président des commerçants d'Orléans. Eh bien, ça ne bouge pas dans la ville, absolument pas. Les quelques contestataires qui veulent faire quelque chose, c'est très facile de serrer la bride, si vous voulez, en leur disant non, c'est pas valable. Et comme on connaît ces contestataires, bien, il est facile de démontrer qu'en principe, ce sont des gens qui ne sont pas intéressants, si vous voulez, qui ne sont pas pour moi des travailleurs. Une chose que j'aime beaucoup, si vous voulez, c'est le travail. Il n'y a que ça qui me passionne, quel qu'il soit d'ailleurs.
Oui, je vois. Une dernière question donc. Est-ce que le parti de l'UDM, ou dans le Loiret, qui a une liste de membres? Est-ce que vous seriez...
Oui.
Si les affects... Est-ce qu'on dirait les effectifs? On va les nombres de membres.
Les adhérents, oui.
Les adhérents.
Oui,
est-ce
oui.
qu'ils sont en augmentation?
Ah oui. Très net, oui.
Très net.
Très net, très net. Oui.
Même après le départ du général.
Ah oui. Ça n'a rien changé, si vous voulez.
Oui.
Ça n'a rien changé parce que pour nous, Pompidou, c'était vraiment le dauphin.
Oui.
Il n'y a même pas eu de problème. Enfin, dans notre département. Mm-hmm. Je ne dis pas que c'est partout pareil en France. Hein. Mm-hmm. Je dis bien, dans notre département, nous sommes une équipe qui est très soudée. Autour du comité départemental, nous avons donc 4 députés gouvernementaux sur 4. Nous avons un conseil général qui est majoritaire. Alors, dans ce département typique, il n'y a pas de doute, nous sommes vraiment la majorité.
Et le but, les objectifs n'ont pas changé depuis le départ du général?
Il n'y a rien à changer. À mon avis, il y a quelque chose qui sont de la politique étrangère qui sont peut-être à revoir, mais sur le plan national, typiquement français, vous savez.
Est-ce qu'on place toujours le mouvement légèrement à droite, comme on essaie toujours de placer les partis à droite et à gauche, historique. Je crois que même ça vient de France, cette division,
c'est ça.
À droite et à gauche. Et comme vous savez, chez nous, les conservateurs et les travaillistes sont légèrement à droite ou légèrement à gauche, enfin, il y a un consensus assez considérable parmi les deux. Est-ce que l'idée est toujours légèrement à droite ou...
Écoutez, dans notre région, nous avons parmi nos adhérents 75% d'ouvriers. Alors, on ne peut pas se classer à droite. Moi, je me défends de me classer à droite. D'ailleurs, si vous voulez, parmi les gens de mon âge de 40 ans, la droite et la gauche, ça ne veut plus rien dire. Ce qui compte, c'est une option générale, et dans le cadre de cette option, une efficacité. Alors, la droite, la gauche, je m'excuse, pour moi, c'est du cinéma pour grand-père ou pour journaliste attardé. Je suis brutal.